les visuels pour qu'ils visualisent quelque chose. Je crois que vraiment, c'est ce que j'avais sur le cœur. Ça a été préparé tout au long du culte. Et je crois que le Seigneur veut encore en rajouter une couche. Ce n'était pas du tout prévu que je sois devant vous ce matin. Il y a eu un concours de circonstances. Et puis, j'avais ça depuis un moment à cœur. J'ai dit, bon Seigneur, si c'est de toi le moment, ben, tu feras que je libère. Et puis, ben, voilà, ça s'est passé comme ça. Et donc, je crois que c'est vraiment quelque chose sur le cœur de Dieu. Et tout d'abord, une parole pour nous, pour l'Église. Pour entrer dans les œuvres préparées d'avance pour nous, que ce soit au niveau individuel, familial, corporatif, communautaire, il nous faut connaître le Père dans une nouvelle dimension. Il nous faut connaître le Père dans une nouvelle dimension. C'est pas, ne le prenez surtout pas comme une obligation. Non, non. C'est pour ça que c'est excellent ceux qui n'étaient pas là pour écouter Isabelle il y a 15 jours, s'il vous plaît, faites la session de rattrapage. Elle nous a parlé du Dieu de joie. Elle en a un petit peu parlé, mais vraiment, il faut connaître le Dieu de joie parce que c'est une dimension assez peu connue et on en a absolument besoin. Donc faites le rattrapage. Je ne sais pas si c'est en ligne déjà. Oui, donc voilà, vous faites le rattrapage en faisant le repassage, tout ce que vous voulez, rattraper le cours. Donc le Dieu de joie. Mais il nous faut connaître le Père dans une nouvelle dimension. Et il y a le désir du Père de se révéler à nous dans une nouvelle dimension. C'est un désir joyeux, c'est un désir rempli d'expectatives, c'est une attente, vous voyez, c'est pas du tout quelque chose de légaliste, c'est de la joie. Mais en même temps, il se réjouit, il a préparé plein de choses, des bons défis aussi, et il nous faut le connaître autrement, et dans une nouvelle dimension. Et je vais passer avec une petite illustration. Qui, dans la Bible, a connu le Père d'une manière, à part Jésus, qui a connu le Père d'une manière assez extraordinaire, à part Jésus? David, ça c'est vrai, c'est normal, c'est David Lee qui répond. David, je crois que je vais en parler, mais Jean, bien sûr. Et puis dans l'Ancienne Alliance, c'est Moïse, Abraham, oui, voilà. Mais vous avez tout ça, c'est juste, hein. C'est sûr, c'est les meilleurs. Enfin, les meilleurs. Dans la révélation écrite, en tout cas. Alors, Abraham, je vais parler d'Abraham rapidement, parce qu'on pourrait dire plein de choses. Mais pour vous montrer que la révélation de Dieu, c'est une dynamique. On ne peut pas juste dire à un moment, ça y est, je connais, je m'arrête. C'est une marche. Et je crois que le désir de Dieu ce matin, c'est de nous stimuler pour plus. Il y a un livre qui s'intitule, je ne l'ai pas lu, mais le titre est parlant, Chasseur de Dieu. Nous stimuler pour plus de Dieu. Et ceux qui, par hasard parmi nous, à force d'être usés par les circonstances, rabotés, dévorés par les circonstances, se sont assis, eh bien, il y a une remise en marche pour suivre Dieu. C'est une dynamique. Et on va voir rapidement avec Abraham qu'il y a une dynamique dans la vie d'Abraham. Et c'est la même pour nous. Hein, on est enfants d'Abraham, donc c'est la même chose pour nous. Alors, si on regarde rapidement le chemin d'Abraham, parcouru par Abraham, première chose, Genèse 12, première relation avec Dieu. Et c'est pas piquer des vers, c'est sors, allez, quitte ton pays, quitte ce que tu connais. C'est exactement ce qui se passe pour Timothée. Vas-y, tu pars, tu t'en vas, tu quittes la maison de ton père, tout ça. Alors, Abraham, c'était pas un inculte sauvage, hein, faut pas croire. Hein, c'était un mésopotamien, une des plus brillantes civilisations de l'époque, l'Irak actuel, hein, très très grande civilisation. Religion très élaborée, c'était pas des primitifs animistes, hein, pas du tout, c'était tout à fait élaboré. Donc, il venait d'un milieu civilisé, évolué, il connaissait déjà pas mal de choses. Et puis, il y a eu cet appel, part. Et première chose, Dieu se révèle comme celui qui nous dit, allez, tu vas vers le nouveau, vers l'inconnu, vers des défis nouveaux. Alors nous, les enseignants, on est au point là, des défis nouveaux, on en a plein, sans arrêt, en école chrétienne, ça n'arrête pas. Mais c'est la pédagogie de Dieu. Donc, on va vers le nouveau. Alors, ceux qui ont du nouveau devant eux, je pense à la famille Mathé, hein. Bienvenue, c'est normal, c'est l'école de Dieu, on est en plein dedans, c'est bon. Et puis, première étape, donc, celui qui nous fait sortir du connu. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, oublie la maison de ton père, hein, psaume 45. Deuxième étape, Genèse 14, oh là là, alors là, c'est la rencontre, Genèse 14, Abraham rencontre Jésus, Melchisédek. Onction royale, onction sacerdotale, la double rencontre. Et en prime, il rencontre El Elyon, le Dieu très haut. voyez, donc une rencontre. Et il faut dire, je pense que ce qui a fait qu'il y a eu la rencontre suivante, c'est qu'à chaque fois, Abraham a répondu. Il a répondu présent. Il était présent dans la relation. C'est certainement pour ça qu'il y a eu ce cœur à cœur tellement fort entre Abraham et Dieu. C'est que Abraham a compris que Dieu était un Dieu de relation et Abraham a répondu à la relation. Donc, Genèse 14, voilà, c'est Melchisédek. Et c'est intéressant parce qu'il a... Il a rencontrer cette onction royale et sacerdotale, et on voit que plus tard, hein, quelques chapitres après, Genèse 18, Abraham lui-même se transforme en intercesseur pour Sodome et Gomorre. Vous voyez, c'est une rencontre qui le transforme, qui le rend à l'image de celui qu'il a rencontré. Parce que Abraham est aussi un adorateur, il élève des autels. Et quand on adore Dieu dans toutes ses facettes, et ben, on a la révélation et on est transformé à l'image de qui on adore. Donc c'est tellement, je voudrais simplement qu'on s'encourage mutuellement à dire, mais Seigneur, je connais que des petites facettes de toi. Mais il y a tellement, tellement, tellement plus. Dieu, c'est immense, c'est sans fin. Donc, petit à petit, le Seigneur nous fait découvrir une facette, et encore une facette, et encore une facette. C'est un être extraordinaire. Et parfois, avec mes élèves, je leur dis, mais Dieu est passionnant. C'est passionnant de connaître Dieu. C'est extraordinaire de connaître Dieu. En plus, ça change, ça bouge. Enfin, il nous fait connaître chaque fois de nouvelles choses. Donc, c'est enthousiasmant, quoi. Genèse 15, verset 1. Je suis ton bouclier et je suis ta très grande récompense. Donc Genèse 15, verset 1. Je suis ton bouclier. Alors, il y a des traductions qui disent « et ta récompense sera très grande ». Mais on peut aussi traduire dans la Darby, c'est comme ça, j'aime beaucoup sa traduction. « Je suis ta récompense, ta très grande récompense hein ». Connaître Dieu comme son bouclier, c'est pas rien ça. C'est pas rien. Son bouclier, ça veut dire que le bouclier, Dieu, prend tous les coups, et pas nous. C'est énorme. Rien que ça, c'est énorme. Connaître Dieu, avoir une relation avec le Dieu bouclier. On peut, et Jésus l'avait cette relation. Il a pris des coups pas possibles, Jésus. Des coups de trahison, des coups de confrontation avec des ennemis, des coups d'abandon, des coups de reniement. Enfin, l'âme de Jésus, elle en a pris plein les chocs, mais il connaissait le Dieu bouclier. Il se confiait dans le Dieu bouclier, et il ne prenait pas tout ça. Et David, hein, David Lee parlait de David, le roi David, lui aussi il s'est pris des chocs. Énorme, énorme, énorme. Mais il connaissait Dieu bouclier, il ne recevait même pas les coups, et il connaissait aussi celui qui restaure l'âme, même quand le bouclier n'est pas bien mis, quand on a oublié que Dieu est sur le bouclier et qu'on prend des chocs, il restaure l'âme. Et David, on le voit très bien, hein, c'est quelqu'un qui a subi des chocs émotionnels épouvantables, mais il était toujours debout, quoi. Et même quand il trébuche, il se remet debout et il remarche avec Dieu. C'est assez extraordinaire. Donc Dieu protège. Il enlève les craintes. Et il protège. Et on a absolument besoin de cette révélation d'un Dieu qui protège. Alors là, je vais peut-être donner du travail à l'équipe Sozo. Si vous avez en vous des insécurités, des craintes, tapis au fond de votre être, qui datent de fou, inconscient, surconscient, tout ce que vous voulez, tapis au fond de vous, s'il vous plaît, ne restez pas avec ça. Traitez. Il y a des super équipes Sozo. Moi, mon dernier traitement, il remonte au mois de juillet, c'est tout frais, tout frais. J'y allais pour pas du tout ça, pas du tout cet aspect de crainte et tout ça. Et puis, parole de connaissance, là, il y a de la crainte, il y a de la sécurité. Ah bon ? Ah bon ? De la crainte, de la sécurité ? Ah bon ? Je croyais avoir déjà traité ça à force de plein de choses, vous voyez ? Et puis, Saint-Esprit montre d'où vient encore cette racine, parce qu'on en a plein de racines de crainte, hein. Montre d'où vient cette racine, demande Saint-Esprit. Oh là 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 là, je me suis retrouvée au printemps 1964. Accident de voiture, un tonneau de la petite dauphine de mes parents et le mensonge qui rentre dans ma tête à ce moment-là, enfin, tout ça, c'est un truc à révéler. Tes parents ne peuvent pas te protéger. Donc, si tes parents ne peuvent pas te protéger, Dieu ne peut pas non plus te protéger. Vous voyez, le mensonge. Et après, c'est là que vous devez absolument écouter le message d'Isabelle. Vous avez une forteresse de mensonges qui se met en place et elle explique très bien dans le message comment cette forteresse sera consolidée par chaque événement qui va dans le sens de la forteresse. Donc vous allez filtrer tous les événements qui vont dire que Dieu ne vous protège pas ou que vos parents ne vous protègent pas. Vous allez retenir ces événements-là et les événements autres, vous allez les oublier, vous allez filtrer. Pour bien faire une grosse forteresse d'insécurité et de crainte, bien costaud, et c'est celle-là qu'il faut après démanteler. Donc si, je crois qu'en chacun de nous, il reste des petites craintes tapis dans les chambres obscures de nos âmes, ne laissez pas ces chambres dans l'obscurité, amenez ça à la lumière, traitez avec la parole de Dieu, les sozos, tout ce qu'il faut, et là il faut être actif, il faut se lever, être en action et dire Seigneur non, je ne veux plus être dans la crainte, je ne veux plus des insécurités, j'en ai assez de ça. Le Seigneur dans sa fidélité met en place des événements pour mettre ça à la lumière, et alors deux choses, quand c'est mis à la lumière, ou on fuit, c'est la pire chose à faire. On n'affronte pas les peurs sournoises qui sont en nous. Ou bien on est courageux, et on dit, je vais traiter. Je vais aller demander un rendez-vous, je vais demander la prière, je vais demander au Saint-Esprit ce qui se passe. Mais il faut oser affronter ces peurs obscures, voyez, c'est très important. Parce que tôt ou tard, après, elles prennent de la place et elles vous mangent. Elles vous empêchent de rentrer dans votre destinée. Alors, donc, il a reçu la révélation, je suis ton bouclier. Il enlève les craintes, il protège, il prend les coups à notre place. Et c'est important, je pense à Isabelle, je suis 100% avec toi. J'ai envoyé mon fils au fin fond de Hawaï, là, il y a pas mal d'années. Et j'étais bourrée de craintes. Et j'ai dû travailler la révélation d'un Dieu, Père, qui protège nos enfants quand ils sont au fin fond du monde. Hein, avec Émilie maintenant qui fait des voyages pas possibles avec portes ouvertes et puis etc etc, on travaille la notion, vous voyez, c'est vital pour rester dans la paix, c'est vital de travailler. Dieu est mon bouclier, il prend les coups. Puis je vous dis pas l'accident de voiture que j'ai eu au 2 mai, le bouclier c'est extraordinaire, ça c'était fabuleux quoi. Dieu est un bouclier, voilà. Mais attention, pour travailler ça, il va nous mettre dans des situations où on a besoin de connaître le Dieu bouclier, donc des situations voilà, un peu dangereuses, vous voyez ce que je veux dire. voilà, donc après Genèse 17, oh là là, une révélation extraordinaire, la première occurrence du terme, il rencontre, et là j'y reviendrai, il rencontre le Shaddai. Extraordinaire. Mais là je passe parce que j'y reviendrai, c'est extraordinaire. Et je crois vraiment que c'est la révélation du Shaddai en particulier qu'on doit avoir maintenant. Genèse 18, ça continue. Rencontre avec la Trinité. Il faut le faire quand même, hein, c'est Abraham, il a eu la totale. Rencontre avec la Trinité. En parenthèse, vous avez à Murbach en ce moment une exposition d'art sacré. Il y a 2 tableaux sur cette rencontre, enfin sur la Trinité, enfin sur la visite de la Trinité à Abraham. 2 tableaux. Je dis chouette, c'est vraiment ça que je dois amener ce matin. Visite de la Trinité. Et là, vous voyez une convivialité, une simplicité, une rencontre toute simple. Hein. Et Jean 14 nous révèle effectivement que Dieu désire demeurer en nous en tant que Trinité. Donc rencontrer la Trinité, c'est énorme. Développer une relation avec chaque membre de la Trinité. Soyons stimulés pour rencontrer, accepter, accueillir, et que la Trinité demeure en nous. Ça, c'est une dimension fabuleuse. Hein. Et puis après, on continue le chemin d'Abraham. Vous voyez, toujours en dynamique, cet Abraham. Avec des petites chutes, hein, il a fait des bêtises. Je ne vous dis pas le coup de l'Égypte. Sarah qui... Hein, bon, bref. C'est dur pour une femme, quand même, ce qu'a fait Abraham. Il a donné à Pharaon, on n'a pas idée de faire ça. Bref, on pardonne à Abraham. Il a été défaillant, Abraham. Vous voyez, ce n'était pas un grand homme surhumain et sans faille. Mais à chaque fois, il se relève et puis il repart. Genèse 22, et là, c'est, je crois que c'est le summum. Genèse 22, vous voyez, il y a eu toutes ces étapes avant. Genèse 22, donc sacrifice d'Isaac. Hein. Et là, il y a eu d'une part ce que dit Hébreu, c'est-à-dire qu'il a eu foi en la puissance de résurrection de Dieu. Il connaissait le Dieu puissant, le Dieu qui peut ressusciter les morts, et il a eu foi. Donc ça, c'est une première chose. Mais je crois qu'au-delà de ça, il y a quelque chose de très profond. Je crois qu'Abraham a connu le Dieu qui donne son fils. Il a pénétré dans les profondeurs du cœur du Père d'une manière assez incroyable. Peut-être le premier humain à pénétrer ces profondeurs-là. Il était le Père qui donnait son fils. Il était l'humain qui a tellement intégré, tellement accepté, tellement identifié au cœur du Père qu'il est allé jusqu'à donner son fils Isaac. Donc il n'y a pas seulement la puissance à la résurrection, je crois qu'il y a aussi une dimension de don du plus précieux de son être, quoi. C'est-à-dire Isaac. Et pourquoi on a une preuve de ça, c'est que ce sacrifice s'est passé sur le mont Moria. Donc, je ne sais pas si vous avez réalisé, le mont Moria, après, pendant des livres et des livres de la Bible, on n'en parle plus. Hein. Et puis qui a remis en lumière l'importance du mont Moria pour Dieu? C'est qui? Avant. Ben, c'était David. Vous voyez, c'est un adorateur qui, des siècles après, alors que Jérusalem était aux mains des Jébusiens, hein, le Seigneur lui a révélé à quel point ce lieu était précieux pour lui, le mont Moria. Donc il a compris quelque chose du secret du cœur de Dieu. Dieu est un Dieu de concret aussi. Cette terre de Moria est précieuse pour lui. Et il a montré ça à David, et David a aussi, on a parlé à Salomon, ils ont fait le temple. Donc vous voyez, c'est une compréhension du cœur d'adorateur de David. Et Abraham, avant ça, avait vraiment, vraiment compris ça, quoi. Et le mont Moria, eh bien maintenant, c'est ce fameux mont qui est tellement, tellement convoité. Je vous rappelle, alors ceux qui n'étaient pas là, pareil, rattrapage à Rick Ridings la semaine dernière, un message extraordinaire sur le cœur du Père pour les Juifs et les Arabes. et le cœur de Dieu pour Jérusalem. Pourquoi il y a un tel cœur de Dieu à le mont du Temple? Enfin, tout ça, il faut vraiment rattraper. Parce que je crois que vraiment, à travers ces messages, à travers tous ces impacts qu'on a d'enseignements et de paroles, le Seigneur est en train d'élargir notre cœur en tant qu'Église, pour nous donner des cœurs de père et mère. Avec tous nos jeunes aussi qu'on envoie, il y a quelque chose par rapport au cœur de père et mère. Et puis là, vous avez, à ce moment-là, Genèse 22, la seule mention dans la Bible, d'après la Strong's, hein, la seule mention à Jéhovah Jireh. C'est la seule mention d'un Jéhovah Jireh, c'est la révélation du Dieu qui pourvoit. Pas seulement pourvoir un bélier, hein, bien sûr, c'est pourvoir. Jésus s'est fait rédemption, justification, sagesse. Tout est pourvu en Jésus. C'est la Jéhovah Jireh, il pourvoit lui-même à tout ce dont on a besoin. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire avec cet Abraham. Vous voyez, cette succession, c'était une marche. Et on est appelé à cette même marche. Connaître l'onction royale sacerdotale, connaître la Trinité, connaître le Père qui se donne jusqu'au sacrifice ultime, connaître... on est chacun appelé à cette suite de révélations. Et la suite, Genèse 23, 6, il y a un tel rayonnement d'Abraham suite à ces révélations. La gloire de Dieu rayonne en lui, c'est évident, hein, il est transformé de gloire en gloire. Et il y a un hittite, donc pas du tout, normalement pas croyant, un hittite qui lui dit... Donc Genèse 23, 6, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Ah tiens, c'est pas là. Enfin, c'est 23, 6 pourtant, dans ma version. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Ah, c'est ça? Ah voilà, c'est ça. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Il était reconnu, les hommes l'ont reconnu autour de lui tellement il rayonnait. Tu es un prince de Dieu. Donc c'est assez énorme. Et aussi, une chose importante, Dieu veut se révéler comme celui qui porte. Comme celui qui veut nous porter. Et vous avez des très très beaux passages qui nous disent que le grand Dieu se compare à un aigle, vous savez, qui dit, il voltige sur ses petits et il les prend sur ses ailes, il les porte. C'est le Dieu qui porte. Et là, on va faire une petite illustration. Il dit aussi dans Exode 19, 4, je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Et il demande aussi à Moïse de porter son peuple, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte l'enfant qui tète. Nombre 11, 12. Alors Moïse, il trouve ça un peu lourd, quoi, mais c'est le cœur de Dieu, porte sur ton sein comme le nourricier porte l'enfant qui tète. Donc Dieu, son désir, son cœur, c'est de porter, et on l'a déjà un petit peu fait au début, mais je voudrais appeler maintenant Donatienne, peut-être pour commencer Donatienne, ah, c'est pas ce qu'il attend. Alors Donatienne, c'est un chrétien moyen, on va dire. Donatienne, elle représente le chrétien. Alors par contre, Isabelle, j'ai besoin que... Voilà. Mais comme tout chrétien qui ne connaît pas encore bien le Père, elle a des responsabilités et elle porte des choses. Vas-y, alors on va commencer par le sac au dos. Sac à dos, voilà. Elle porte un sac à dos. Oui, oui. Non, tu peux... Si tu as fait mal, tu déposes. Parce que c'est vrai que, bon, Donatienne fait du théâtre, mais... ouais. Donc elle porte... bon, d'accord. Et on va dire que, vous voyez, ça fait, elle le porte tellement longtemps, elle le porte depuis tellement longtemps d'ailleurs, que ça fait partie de sa morphologie. Vous voyez, il y a une bosse sur le dos, elle est courbée, ça fait partie d'elle, tellement ça fait longtemps qu'elle est avec ce... Elle ne se rend même plus compte que c'est un élément extérieur. Alors ça va représenter toutes les choses inconscientes qu'on a tellement assimilées, qu'on croit que ça fait partie de nous, vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a le reste. Alors, on va dire un premier sac, voilà, oui, ben oui, ah oui, tu peux. En fait, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Attends, tu peux juste me montrer ce qu'il y a dedans, parce que ça représente des choses à chaque fois. Oui, voilà. Alors, ça, c'est le boulot de Donatienne, parce qu'elle est prof de français, et... et puis, franchement, l'orthographe a inculqué au sixième, c'est terrible. La quatrième aussi, ça continue. Et puis, la grammaire et l'orthographe française, c'est terrible aussi. Voilà. Et on continue. Alors, après, encore du fardeau. Elle trimballe aussi quand même tous les liens. Ah non, attends. Si tu enlèves les fleurs, là, il n'y a pas de fleurs. C'est pas encore. Non, pas là. Donc là, c'est alors, elle enseigne la littérature française. C'est terrible parce que la littérature française, c'est plein de pessimisme, désespoir, détresse, etc. Et puis, il y a aussi tous les problèmes. Là, j'ai mis des trucs familiaux aussi. Ah oui, et puis j'ai mis aussi des grosses godasses pleines de boue parce qu'elle a tellement galéré dans tous les chemins. Bon, maintenant, Donatienne, comme tu es un chrétien obéissant, le Seigneur te dit, Hébreux 12, voilà, les yeux fixés sur Jésus, cours dans la voie qui te... Oh non, 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 attends, Donatien, il y a une nuée de témoins, t'es prié de courir correctement la voie, dans la voie ouverte devant toi, tu cours, allez, vas-y. Voyez qu'il y a un problème. Comment Dieu ose nous demander un truc pareil? C'est pas possible de nous demander quelque chose pareil. Alors, est-ce qu'on peut pas obéir à Dieu? Cours dans la voie qui est ouverte devant toi, les yeux fixés sur Jésus. En fait, elle n'est pas trop fixée sur Jésus, elle est fixée sur les sacs portés. Ben, c'est pas terrible. Donc, est-ce que Dieu nous demande ça? Franchement, c'est pas vivable. Vous êtes d'accord? C'est pas vivable. Mais on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire ça. Hein, j'ai juste visualisé, mais soyons honnêtes. Soyons honnêtes, on est plein à faire ça. Et responsabilité de ci, responsabilité de ça, etc. Donc il y a une solution. Qui c'est qui doit porter tout ça? Jésus. Voilà, Jésus. Et qui c'est qui nous débarrasse? C'est... Attends. C'est, alors, premier principe, c'est pas toi qui peux l'enlever. Parce qu'en plus, tu t'agrippes à ça. Elle a peut-être pas envie de s'agripper, mais en fait, normalement, on s'agrippe, nous. Je suis responsable de ça. Je suis responsable de ça. Et je porte mes élèves, et je porte ma famille, et je porte le conjoint, ça c'est un gros morceau aussi, et je porte... Et puis... Et je porte l'école, et je porte... Moi je porte la compta, accessoirement c'est mon jour, 31 août, c'est mon jour de clôture annuelle comptable, je vous dis pas, clôture comptable annuelle. Ce soir, à 4h30, on a la rentrée scolaire, on porte tout ça, nous. Non, c'est pas possible, d'accord. Alors j'appelle, Werner, tu es d'accord, tu vas figurer le père avec un grand P. En plus, il vient d'envoyer son fils, il y a un cœur de père, Werner. Alors Werner, tu fais quelque chose, là, c'est pas possible. Et alors, elle fait... Alors... attends. Alors Donatienne, elle est prof de français, vous connaissez tous Les Misérables, Cosette, alors on a cette image prophétique dans Les Misérables, Victor Hugo, Cosette. Alors Cosette, non seulement elle porte son énorme seau, bon là c'est hein, elle porte un seau, elle est dans le noir, il fait noir dans le bois, etc. Et en plus, elle a la grosse frousse parce qu'il y a les Thénardier, les horribles, tout le monde connaît les Thénardier, qui l'assaillent de paroles de malédiction, de mensonges, d'accusations, parce que l'accusateur, il ne nous loupe pas, hein, dès qu'il en a une, paf, il nous envoie un trait. Donc il y a tout ça dans le contexte aussi, hein, le sombre, l'obscurité, on ne voit rien, et le vent froid qui souffle, et puis ouais. Et à un moment donné, eh ben, Cosette, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle Dieu à l'aide. Et qu'est-ce qu'il fait le père? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Vas-y. Ben, voilà. Et à un moment donné, vous lisez ça dans Les Misérables, j'avais eu le temps, je vous lirai tout ça. Il enlève. Eh ouais. Ah, ça va mieux. Après, une étape... Ah oui, ça c'est un peu plus long parce que... Oui, mais fais-le quand même. Parce que, vous voyez, ça fait partie d'elle. Et parfois même, les lanières, elles rentrent dans la chair tellement c'est intégré à notre être qu'on ne se rend même plus compte que c'est nous. Ah! Et après, oh merveille des merveilles, mon petit bouquet, il est où? Le petit bouquet de fleurs, voilà. Voilà. Alors, normalement, voilà. La destinée de Donatienne, c'est, elle prend son petit bouquet de fleurs, ça veut dire la louange, l'émerveillement devant la création, c'est tout ça, le bouquet de fleurs. Hein. J'en avais ramassé un beau pour vous, mais je l'ai oublié, puis du coup, j'ai pris ce qu'il y avait autour de l'église. Donc, ça parle de l'émerveillement devant la création. Et aussi, la louange, le chant, l'adoration, elle est libre. Hein? Et puis quand même, et alors, devant tous les défis, il y a le père qui lui met la main sur l'épaule, qui dit, Donatienne, tu peux le faire. Hein?
Je dis?
Oui, vas-y. Donatienne, tu peux le faire. L'encouragement du père.
Donatienne, tu peux le faire.
Et puis la parole dit, il prend ma main droite. Il me conduit par son conseil et il me reçoit dans la gloire. Tu vois? Il prend ma main droite, il me conduit par mon conseil, il me reçoit dans la gloire. On peut le dire tous ensemble? Tu prends ma main droite, tu me conduis par ton conseil et tu me reçois dans la gloire. Ça, c'est notre destinée. Dans la louange, l'adoration, la créativité, la joie, la danse. Et maintenant, tu peux courir tranquillement, tu vois, dans la carrière ouverte. Et le père qui court, allez, vas-y, Donatienne, on peut y aller dans la rentrée. Mais tu peux enlever ça. Voilà. Et Donatienne, défendue de reprendre les fardeaux, hein, défendue, hein, parce qu'on est très prompte.
J'ai un petit témoignage, parce que voilà, il faut que ce soit concret. Depuis cet été, donc Anne parle des peurs, mais moi aussi, puis elle m'avait fait passer petite feuille pour moi personnellement. Et c'est vrai que j'ai travaillé, mais pas moi, ça n'a pas été dur, mais dans la présence de Dieu. Mais c'est vrai que je devais encore affronter des peurs, mais telles que, je veux dire, j'en avais mal à l'estomac. Et je veux dire, tout cet été, ça a duré. Et c'est que ce matin où, je veux dire, j'en ai parlé à Franck, et il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. On a été vraiment à la racine, et que, je veux dire, Dieu parle de ça, etc. Et, enfin bon, voilà, ça me bluffe, Dieu est bon, quoi. Voilà. Voilà.
Donc, important, enfin, il y a deux éléments importants ce matin, entre autres, hein, mais important, donc, donner ces fardeaux à Dieu. Ça, c'est très, très, très important. Parce que vu les défis qui sont devant nous, alors là, vous voyez. Alors, il y a une illustration aussi. Cet été, j'étais avec mon frère, Luc, et avec Émilie aussi. On s'est fait une grosse rando, une grande rando. Alors, moi, randonneuse normale, j'avais un sac à dos normal sur le dos. Et Luc, tu te rappelles, Émilie ? Il avait un ridicule sac à dos de rien du tout qui pendouillait sur son dos, avec presque rien dedans. C'était impressionnant, c'était trop amusant. Je dis, bah Luc, c'est quoi ce sac à dos ? Oh, bah oui, ça va, quoi. Et je crois qu'il faut vraiment que je lui dise, alors que mon frère Luc, hein, Luc Bussière, il prend des charges supplémentaires, l'ISP par exemple, en plus, hein, la philo avec plusieurs terminales, enfin, il n'arrête pas de prendre. Mais je crois que vraiment le Seigneur lui dit, peut-être qu'il l'a compris déjà, hein, le Seigneur lui dit, mais... Sois léger, c'est moi qui porte tout ça. Parce qu'il pourrait être écroulé. Il y a Rock, il y a Josué, il y a l'ESPEF, il y a maintenant l'ISP, plus la famille, plus tous les petits-fils et petits-enfants, avec tous les soucis de Katia, etc. Mais et voilà, c'est le père qui porte. Et Luc, il a son petit sac à dos de rien du tout, là. C'est trop amusant. Voilà, donc c'est vraiment ça. Parce que le Seigneur, ça va y aller. Hein. On est appelé à beaucoup, beaucoup donner. Mais c'est le père qui porte en nous. Et une dernière chose très, très importante, dont j'avais parlé du Shaddai. Avoir la révélation du Shaddai. Et le Shaddai, c'est quelque chose. Hein. Alors le Shaddai, la première fois que c'est dans la Bible, eh ben, c'était justement avec la révélation de Genèse 17. Rappelez-vous, Rick Reitings a parlé de Genèse 17 hein, quand il est intervenu. La révélation de l'énorme cœur du Père pour les Juifs et les Arabes, c'est Genèse 17. Hein. Dieu aime autant Isaac qu'Ismaël. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, le Shaddai, Genèse 17.1. Marche devant ma face et sois intègre. » Et le Shaddai, quelle est cette facette spéciale de Dieu ? Eh bien, vous l'avez dans tout Genèse, c'est toujours la même facette de Dieu. On le voit très bien dans Genèse 17, c'est-à-dire il devient père d'une multitude, il devient père des nations. Il devient fécond, il se multiplie. Le Shaddai, c'est celui qui fait de nous des gens qui nous multiplions. Et là, c'est très important, il faut qu'on quitte notre regard. Je suis tout seul, je suis une pièce unique, je suis stérile, je ne porte pas de fruits. On est créé à l'image de Dieu, on est créé à l'image du Shaddai, on est appelé à nous multiplier. En tant qu'église, en tant que nation, enfin de l'école, en tant que ministère, en tant qu'être humain, on est appelé à nous multiplier. Et c'est important qu'on intègre ce regard du Père, tu es aussi un Père, tu es aussi une Mère, tu vas aussi te multiplier, tu vas aussi être fécond, qu'on se regarde nous-mêmes comme fécond. La stérilité, c'est fini, c'est terminé. On reçoit la révélation de Shaddai. Vous savez que Shad, il y a une racine, Shad, ça veut dire les seins, les mamelles, quelque chose qui nourrit. Voilà, c'est quelque chose de très fort, le Shaddai. Alors, je pourrais me dire, j'ai sorti à Strong's tout ce qui va avec. Genèse 28.3, que le Dieu Tout-Puissant, le Shaddai, te bénisse, te rende fécond, que te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Et je crois que nous, en tant qu'Église Josué, on est appelé à se multiplier, pas à devenir la méga, méga, méga Église, mais à nous multiplier. À ce qu'il y a en France des tas de petites églises comme ça, familiales, remplies de vie, remplies de louanges, d'adoration. Que l'école Daniel, elle ne devienne pas la méga école de 1000 élèves, pas du tout, du tout. Mais qu'on multiplie des structures partout, partout. Je crois qu'on est à l'aube d'une étape de fécondité et de multiplication. Mais ça commence par notre regard, qu'on se regarde nous-mêmes comme féconds, nous multipliant à l'infini, hein, parce qu'Abraham... Et justement, Dieu est très content de se servir de situations de grande stérilité. L'Église de France, voilà, exemple. L'Église de France, très stérile, pendant très, très, très longtemps. Et il dit, je vais me glorifier dans cette Église tellement stérile, je vais faire une Église très, très, très féconde qui va se multiplier. Ce sera un prodige de sa part par pure grâce. Voilà, je crois que je vais juste, on va s'arrêter là. Donc, regardons-nous comme... Ah oui, psaume 91 aussi, très important. Le Père, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Shaddai, du Tout-Puissant. Le repos. Alors, rapidement, vous faites votre révision, enfin, votre revue. C'est-à-dire que je vais vous donner plusieurs éléments du Père et vous dites, ah, là, je connais. Oh, là, pas du tout. Je dois travailler déjà la notion. Je ne travaille pas. Et quand quelque chose, vous ne le connaissez pas, vous dites, Seigneur, Seigneur, révèle-toi, montre-moi, je travaille ta parole. Et voilà. Alors, primo, accepter les défis, sortir de nos limites, nos ornières, nos habitudes, aller dans l'inconnu avec Dieu. Vous entrerez, vous sortirez, vous trouverez des pâturages, le goût de la découverte, du défi, de l'inconnu, tout ça, c'est avec le Père. Ensuite, le Père nous rassure, nous encourage, nous fortifie, il nous protège, il nous donne la sécurité. Ensuite, troisièmement, le Père est le Shaddai, il nourrit, pourvoit, nous donne la fécondité, nous fait multiplier. Quatrièmement, le Père est un être de relation, il désire une relation vraie et gratuite, je dirais, gratuite. Émilie me partageait, hein, Émilie, combien tu as été bénie, tu as compris le Père lorsqu'il serre un nouveau-né ou un bébé sur son cœur. Le bébé, il ne fait rien, il dort, hein. Et puis, il y a une plénitude du père ou de la mère quand il sert un nouveau-né ou un bébé qui dort, qui est dans le repos, comme ça. Il y a une plénitude du père, hein, le père. Donc, quand on est tranquille, dans sa présence, on ne fait rien. On ne dit pas, Seigneur, je t'apporte mes élèves, mais ta. Juste, lui et nous, tranquille, dans sa présence, gratuitement, eh bien, on réjouit son cœur. Voilà. Alors, ne privez pas, ne frustrons pas le cœur de Dieu d'une relation absolument gratuite avec lui. Le Père nous éduque. Ah oui, attention, il nous éduque. Et on a lu, nous les enseignants, enfants de risque et enfants en promesse. Ça veut dire que l'adversité est excellente pour nous, dans la mesure où des gens bienveillants, donc le Père, forcément, nous accompagnent. Donc ça fait partie de l'éducation du Père. Des petits défis ou des grands défis, des épreuves, etc. Allez, on y va, je suis avec toi et on part avec. Et puis, il veut se révéler à travers nous. Qu'on soit nous-mêmes, la plus grande bénédiction, c'est d'être soi-même une source de bénédiction. Voilà, voilà. Donc, au travail, quoi. Hein. Et surtout, ah oui, il nous conduit dans le repos. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et que chacun de nous, rentré ou pas rentré, élève, prof ou parent, on vive tout dans un repos profond, vers les eaux paisibles de sa présence. Merci Seigneur, parce que tu ravives, Saint-Esprit, le désir d'aller plus loin avec toi, comme Abraham. Et si parmi nous, il y en a qui sont un petit peu assis parce qu'ils sont fatigués, eh bien, qu'ils se remettent en marche. Parce que tu prends leur main et tu prends notre main et tu nous dis, tu nous saisis par la main droite, tu nous conduis par ton conseil tu nous prépares, tu nous reçois dans ta gloire. Seigneur, que chacun de nous se remette en marche et soit ravivé dans la soif de te connaître parce que tu es un Dieu extraordinaire, passionnant. Il y a plein de facettes de toi qu'on ne connaît pas encore ou pas suffisamment. Alors Seigneur, révèle-toi à nous, en particulier par le Dieu qui porte tous nos fardeaux et par le Dieu aussi qui est le Tout-Puissant, le Shaddai, qui se multiplie, qui nous rend féconds. Et de stérile qu'on était, tu nous rends féconds. Tu touches nos cœurs et tu fais de nous les êtres qu'on est appelés à devenir des immenses sources de bénédiction. Au nom de Jésus. Amen.